Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Et elle a eu donc le sauvetage de Casino encore ce matin avec un nouvel épisode. Le groupe Terract et sa maison mère, le géant de l'agroalimentaire Invivo, ils retirent leur projet de reprise pour lequel ils étaient en négociation exclusive avec la direction de Casino, et ce depuis le mois de mars. Pauline Tadevin, racontez-nous ce qui s'est passé.
Alors, ce que nous dit concrètement le communiqué, c'est que Terract et Casino ont décidé d'un commun accord et, considérant l'évolution du contexte, de ne pas poursuivre les discussions qui auraient potentiellement conduit au regroupement des activités de distribution des deux parties en France. Depuis le début des négociations exclusives, les choses ont bougé. Un conciliateur a été nommé pour faire discuter Casino et ses créanciers sur la restructuration de la dette. Cette question de la dette, elle est centrale. Ça a joué. C'est ce que dit le patron d'Invivo, maison mère de Terract, au site spécialisé LSA. Il sera d'ailleurs sur notre plateau lundi matin. Il a d'autre part d'autres gros projets en cours, le patron d'Invivo, comme l'acquisition d'un gros acteur du Malte en Australie, pour lequel il a déjà prévu de débourser plus d'un milliard d'euros. Il avait déjà fait savoir que si les conditions n'étaient pas réunies, il n'irait pas jusqu'au bout de ce projet Casino.
Bon, Pauline, il y avait deux projets de reprise de Casino sur la table. Il y a toujours deux offres.
Oui, parce que si l'actionnaire majoritaire de Terract, Invivo, donc, ne va pas plus loin dans ces discussions, eh bien, les fondateurs de Terract, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moïse Alexandre Zouari, eux, sont bien déterminés à aller au bout. Ils y vont en solo. Pour cela, ils créent un véhicule d'investissement dans lequel ils mettent au départ, nous dit-on, 200 à 300 millions d'euros. Et ils comptent s'appuyer sur des créanciers qui se sont dit partant, nous dit-on aussi, avec comme objectif de lever plus d'un milliard d'euros. Une offre qui leur permet donc de rivaliser avec celle de Daniel Kretinsky dans ce dossier, plus qu'ailleurs. D'ailleurs, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et les choses prennent de plus en plus une tournure financière.
Pour autant, Pauline Tadevin, on n'a pas fini d'entendre parler de Terract.
Ben non, leur communiqué le dit bien d'ailleurs. Xavier Niel, Mathieu Pigas, Moïse Alexandre Zouari travaillent pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino, parce que s'il faut rassurer les créanciers du distributeur, il y a aussi un gros enjeu industriel et social. Rien qu'en France, Casino, c'est 55 000 emplois. Bercy d'ailleurs surveille ce dossier comme le lait sur le feu pour monter donc leur projet industriel, un plan de transformation de Casino axé sur le circuit court. Le trionial Pigas et Zouari compte s'appuyer notamment sur Terract, dont il reste actionnaire, et sur la force de sa maison mère, Invivo, et ses 192 coopératives agricoles.
Merci beaucoup Pauline. Et Thierry Blandinière, vous l'avez dit, d'Invivo sera notre invité lundi, ça sera à 8h15. L'avenir de la Grande Récré se joue aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Paris va donner sa décision sur la reprise de l'enseigne de la Galaxie au Haillon. L'offre de son concurrent Jouet Club a de bonnes chances de l'emporter. Elle vise à reprendre la quasi-totalité des magasins et des salariés. On sera ce soir sur BFM Business à 18h15 avec Franck Mater, le porte-parole de Jouet Club.
7h03 sur RMC Découverte, BFM Business. Dans l'actualité également, la relance de la filière nucléaire qui se poursuit avec aujourd'hui en Normandie trois ministres sur le terrain. Des investissements vont être annoncés, notamment pour moderniser les infrastructures de recherche et pour soutenir des start-up innovantes. Mais avant tout, le gouvernement veut mettre le paquet sur la formation au métier du nucléaire. Les explications de Raphaël Coudert.
Un plan à 42 millions d'euros issu de France 2030 pour soutenir la formation et 30 actions concrètes portées par les universités des métiers du nucléaire. L'objectif est de sécuriser les 100 000 recrutements dont la filière aura besoin ces 10 prochaines années. Le gouvernement veut agir sur tous les niveaux, de bac-3 à bac+8. Il s'agira donc de créer de nouvelles formations partout en France, mais aussi de remplir les milliers de promotions déjà existantes. Pour soutenir ces classes, le nombre de bourses d'études dans le nucléaire va doubler, soit 400 boursiers chaque année dès 2024. Et dans le sillage de la réforme des lycées professionnels, des salariés de la filière seront même détachés pour enseigner directement dans les établissements. Face à son déficit d'attractivité, la filière veut aller chercher les talents de toutes parts. En lien avec Pôle emploi, elle va adopter des méthodes de recrutement favorisant l'inclusion pour attirer les femmes et les populations issues des zones rurales et prioritaires. Elle va aussi déployer des modules sur le nucléaire dans les formations non spécialisées, de quoi créer un vivier d'étudiants pouvant répondre aux besoins du nucléaire.
EDF serait prêt à nouer des contrats à long terme avec ses rivaux, Total Energy ou Engie par exemple. L'objectif du président Luc Rémont, c'est de pouvoir assurer la couverture couverture des coûts du parc nucléaire français. Le groupe, lourdement endetté, souligne régulièrement l'impact négatif de la régulation actuelle sur ses comptes. C'est l'ARENH qui arrivera à échéance fin 2025. Pour l'instant là, le patron de Total Energy a fait cette déclaration. Des fournisseurs d'électricité peuvent parfaitement devenir les partenaires d'EDF. On n'a pas besoin d'un règlement d'État. C'est ce qu'a expliqué le patron de Total Energy.
Et puis on va maintenant parler d'une autre énergie bas carbone. On voulait revenir ce matin sur cette histoire d'hydrogène blanc. Et si la Lorraine était la prochaine Arabie Saoudite? De l'hydrogène qui se trouve à l'état naturel dans nos sous-sols avec un gisement potentiellement énorme. Les explications de Jean-Baptiste Huet.
L'hydrogène blanc, c'est le Graal pour les industriels. Pas besoin de le fabriquer, que ce soit avec du gaz ou de l'électricité. Il est naturellement présent dans le sous-sol ou dans les océans. Il faut juste savoir où aller le chercher. Et justement, des scientifiques du CNRS ont récemment identifié une potentielle réserve en France, à Folchwiller, en Moselle, qui pourrait représenter près de la moitié de la production annuelle mondiale, plus de 46 millions de tonnes. Une véritable mine d'or potentielle. Il s'agit maintenant d'aller vérifier tout ça plusieurs kilomètres sous terre. 2 à 3 mois de travail vont être nécessaires. Une exploration qui devrait très vite s'étendre à d'autres régions en France, mais aussi en Europe. Un gisement d'importance a par exemple déjà été détecté au Mali et des campagnes sont en cours aux États-Unis, au Brésil ou en Australie. Il faut cependant encore perfectionner et même inventer les techniques d'extraction. À l'heure où les États et les industriels s'arrachent les cheveux pour produire de l'hydrogène bas carbone, presque personne n'avait pensé à aller le chercher sous terre.
Et puis à ce sujet, notre invité à 8h15, Laurent Fabre, le patron de Plastic Omnium, qui justement mise gros sur ses réservoirs pour les véhicules à hydrogène.
Le pic d'inflation est probablement atteint. C'est ce que dit la Banque de France, qui nous annonce aussi que l'économie française devrait continuer de résister modestement au deuxième trimestre. Entre avril et juin, le PIB a progressé de 0,1% par rapport au premier trimestre, où il avait augmenté de 0,2%.
Et puis Bruxelles a validé son plan d'investissement dans les semi-conducteurs. L'Union met le paquet, plus de 21 milliards d'euros d'investissement au total, dont 8 milliards de fonds publics. Il réunit 20 pays, 56 entreprises et devrait créer 8 700 emplois directs.
Et oui, absolument. Edenred, qui entre au CAC 40 à la place de Vivendi, l'ancien Accor Service, qui est né de la scission des activités de services prépayés du groupe hôtelier, connaît une croissance régulière et solide. Son entrée dans le sein des saints de la Bourse de Paris était attendue depuis des années. C'est Alexandra Paget qui raconte la success story.
C'est la consécration pour l'émetteur de tickets restaurants. Cette ex-filiale d'Accor est cotée en bourse depuis 2010 et son entrée au CAC récompense une stratégie de long terme. Développement international et digitalisation réussie. Le groupe a porté l'idée française du titre restaurant dans 45 pays. Mais pas seulement, car l'invention en question, son produit phare, ne représente plus aujourd'hui que 44% de son chiffre d'affaires. L'entreprise a en effet misé sur 3 produits. Les avantages aux salariés, tickets resto donc, mais aussi la carte cadeau, Cadeo. Les solutions de mobilité professionnelle, tickets mobilité pour les péages, le carburant, les parkings et les paiements interentreprises. Résultat, 52 millions d'utilisateurs, un chiffre d'affaires qui a doublé depuis 2016 à 2 milliards d'euros et une capitalisation boursière multipliée par près de 4 à plus de 15 milliards d'euros. Pratiquement autant que Sodexo et bien plus qu'Accor, son ancienne maison mère.